Lettre 40, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est peu pour mon inhumaine de ne pas répondre à mes lettres et de refuser de les recevoir. Elle veut me priver de sa vue. Elle exige que je m'éloigne. Ce qui vous surprendra davantage, c'est que je me soumette à tant de rigueur. Vous allez me blâmer. Cependant, je n'ai pas cru devoir perdre l'occasion de me laisser donner un ordre. Persuadée d'une part que qui commande s'engage, et de l'autre, que l'autorité illusoire que nous avons l'air de laisser prendre aux femmes est un des pièges qu'elles évitent le plus difficilement. De plus, l'adresse que celle-ci a su mettre à éviter de se trouver seule avec moi me plaçait dans une situation dangereuse, dont j'ai cru devoir sortir à quelque prix que ce fût. Car étant sans cesse avec elle, sans pouvoir l'occuper de mon amour, il y avait lieu de craindre qu'elle ne s'accoutumât enfin à me voir sans trouble. Disposition dont vous savez assez combien il est difficile de revenir. Au reste, vous devinez que je ne me suis pas soumise sans condition. J'ai même eu le soin d'en mettre une, impossible à accorder, tant pour rester toujours maître de tenir ma parole, ou d'y manquer, que pour engager une discussion, soit de bouche ou par écrit, dans un moment où ma belle est plus contente de moi, où elle a besoin que je sois content d'elle. Sans compter que je serais bien maladroit, si je ne trouvais moyen d'obtenir quelque dédommagement de mon désistement à cette prétention, tout insoutenable qu'elle est. Après vous avoir exposé mes raisons dans ce long préambule, je commence l'historique de ces deux derniers jours. J'y joindrai comme pièce justificative la lettre de ma belle et ma réponse. Vous conviendrez qu'il y a peu d'historiens aussi exacts que moi. Vous vous rappelez les faits que fit avant-hier matin ma lettre de Dijon. Le reste de la journée fut très orageux. La jolie prude arriva seulement au moment du dîner et annonça une forte migraine, prétexte dont elle voulut couvrir un des plus violents accès d'humeur que femme puisse avoir. Sa figure en était vraiment altérée. L'expression de douceur que vous lui connaissez s'était changée en un air mutin qui en faisait une beauté nouvelle. Je me promets bien de faire usage de cette découverte par la suite et de remplacer quelquefois la maîtresse tendre par la maîtresse mutine. Je prévis que l'après-dîner serait triste, et pour m'en sauver l'ennui, je prétextai des lettres à écrire et me retirai chez moi. Je revins au salon sur les 6 heures. Madame de Rosemonde proposa la promenade, qui fut acceptée. Mais au moment de monter en voiture, la prétendue malade, par une malice infernale, prétexta à son tour, et peut-être pour se venger de mon absence, un redoublement de douleur, et me fit subir sans pitié le tête-à-tête de ma vieille tante. Je ne sais si les imprécations que je fis contre ce démon femelle furent exaucées, mais nous la trouvâmes couchée au retour. Le lendemain au déjeuner, ce n'était plus la même femme. La douceur naturelle était revenue, et j'eus lieu de me croire pardonnée. Le déjeuner était à peine fini que la douce personne se leva d'un air indolent et entra dans le parc. Je la suivis, comme vous pouvez croire. D'où peut naître ce désir de promenade ? Lui dis-je en l'abordant. J'ai beaucoup écrit ce matin, me répondit-elle, et ma tête est un peu fatiguée. Je ne suis pas assez heureux, repris-je, pour avoir à me reprocher cette fatigue-là. Je vous ai bien écrit, répondit-elle encore, mais j'hésite à vous donner ma lettre. Elle contient une demande, et vous ne m'avez pas accoutumé à en espérer le succès. Ah, je jure que s'il m'est possible. « Rien n'est plus facile, interrompit-elle, et quoique vous dussiez peut-être l'accorder comme justice, je consens à l'obtenir comme grâce. » En disant ces mots, elle me présenta sa lettre. En la prenant, je pris aussi sa main, qu'elle retira, mais sans colère et avec plus d'embarras que de vivacité. « La chaleur est plus vive que je ne croyais, dit-elle. Il faut rentrer. » Et elle reprit la route du château. Je fis de vains efforts pour lui persuader de continuer sa promenade, et j'eus besoin de me rappeler que nous pouvions être vus, pour n'y employer que de l'éloquence. Elle rentra sans proférer une parole, et je vis clairement que cette feinte promenade n'avait eu d'autre but que de me remettre sa lettre. Elle monta chez elle en rentrant, et je me retirai chez moi pour lire l'épître, que vous ferez bien de lire aussi, ainsi que ma réponse, avant d'aller plus loin. Lettre 41, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. « Il semble, monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu'à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j'avais contre vous. Votre obstination à vouloir m'entretenir sans cesse d'un sentiment que je ne veux ni ne dois écouter, l'abus que vous n'avez pas craint de faire de ma bonne foi ou de ma timidité pour me remettre vos lettres, le moyen surtout, j'ose dire peu délicat, dont vous vous êtes servi pour me faire parvenir la dernière, sans craindre au moins l'effet d'une surprise qui pouvait me compromettre, tout devrait donner lieu de ma part à des reproches aussi vifs que justement mérités. Cependant, au lieu de revenir sur ces griefs, je m'en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste, et si je l'obtiens de vous, je consens que tout soit oublié. Vous-même m'avez dit, monsieur, que je ne devais pas craindre un refus. Et quoique par une inconséquence qui vous est particulière, cette phrase même soit suivie du seul refus que vous puviez me faire, je veux croire que vous n'en tiendrez pas moins aujourd'hui cette parole formellement donnée il y a si peu de jours. Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi, de quitter ce château, où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m'exposer davantage au jugement d'un public toujours prompt à mal penser d'autrui, et que vous n'avez que trop accoutumé à fixer les yeux sur les femmes qui vous admettent dans leur société. Averti déjà depuis longtemps de ce danger par mes amis, j'ai négligé, j'ai même combattu leur avis, tant que votre conduite à mon égard avait pu me faire croire que vous aviez bien voulu ne pas me confondre avec cette foule de femmes qui toutes ont eu à se plaindre de vous. Aujourd'hui que vous me traitez comme elles, que je ne peux plus l'ignorer, je dois au public, à mes amis, à moi-même, de suivre ce parti nécessaire. Je pourrais ajouter ici que vous ne gagneriez rien à refuser ma demande. Décidez que je suis à partir moi-même, si vous vous obstiniez à rester. Mais je ne cherche point à diminuer l'obligation que je vous aurai de cette complaisance. Et je veux bien que vous sachiez qu'en nécessitant mon départ d'ici, vous contrarieriez mes arrangements. Prouvez-moi donc, monsieur, que comme vous me l'avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n'auront jamais à se plaindre de vous. Prouvez-moi, au moins, que quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer. Si je croyais avoir besoin de justifier ma demande vis-à-vis de vous, il me suffirait de vous dire que vous avez passé votre vie à la rendre nécessaire, et que pourtant, il n'a pas tenu à moi de la jamais former. Mais ne rappelons pas des événements que je veux oublier, et qui m'obligerait à vous juger avec rigueur, dans un moment où je vous offre l'occasion de mériter toute ma reconnaissance. Adieu, monsieur. Votre conduite va m'apprendre avec quel sentiment je dois être, pour la vie, votre très humble, etc. 2. Ce 25 août 1700. Lettre 42. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Quelque dures que soient, madame, les conditions que vous m'imposez, je ne refuse pas de les remplir. Je sens qu'il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs. Une fois d'accord sur ce point, j'ose me flatter qu'à mon tour vous me permettrez de vous faire quelques demandes, bien plus faciles à accorder que les vôtres, et que pourtant je ne veux obtenir que de ma soumission parfaite à votre volonté. L'une, que j'espère qui sera sollicitée par votre justice, est de vouloir bien me nommer mes accusateurs auprès de vous. Ils me font, ce me semble, assez de mal pour que j'aie le droit de les connaître. L'autre, que j'attends de votre indulgence, est de vouloir bien me permettre de vous renouveler quelquefois l'hommage d'un amour qui va plus que jamais mériter votre pitié. Songez, madame, que je m'empresse de vous obéir, lors même que je ne peux le faire qu'aux dépens de mon bonheur. Je dirai plus, malgré la persuasion où je suis, que vous ne désirez mon départ que pour vous sauver le spectacle, toujours pénible, de l'objet de votre injustice. Convenez-en, madame. Vous craignez moins un public trop accoutumé à vous respecter pour oser porter de vous un jugement désavantageux, que vous n'êtes gêné par la présence d'un homme qu'il vous est plus facile de punir que de blâmer. Vous m'éloignez de vous comme on détourne ses regards d'un malheureux qu'on ne veut pas secourir. Mais tandis que l'absence va redoubler mes tourments, à quel autre qu'à vous puis-je adresser mes plaintes? De quel autre puis-je attendre des consolations qui vont me devenir si nécessaires? Me les refuserez-vous quand vous seul causez mes peines? Sans doute vous ne serez pas étonné non plus qu'avant de partir j'ai à cœur de justifier auprès de vous les sentiments que vous m'avez inspirés. comme aussi que je ne trouve le courage de m'éloigner qu'en recevant l'ordre de votre bouche. Cette double raison me fait vous demander un moment d'entretien. Inutilement voudrions-nous y supplier par lettre. On écrit des volumes et l'on s'explique mal, ce qu'en un quart d'heure de conversation suffit pour faire bien entendre. Vous trouverez facilement le temps de me l'accorder, car quelque empressé que je sois de vous obéir, vous savez que Madame de Rosemonde est instruite de mon projet de passer chez elle une partie de l'automne. Il faudra au moins que j'attende une lettre pour pouvoir prétexter une affaire qui me force à partir. Adieu, madame. Jamais ce mot ne m'a tant coûté à écrire que dans ce moment où il me ramène à l'idée de notre séparation. Si vous pouviez imaginer ce qu'elle me fait souffrir, j'ose croire que vous me sauriez quelque gré de ma docilité. Recevez au moins, avec plus d'indulgence, l'assurance et l'hommage de l'amour le plus tendre et le plus respectueux. De ce 26 août 1700. Suite de la lettre 40 du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. À présent, raisonnons, ma belle amie. Vous sentez comme moi que la scrupuleuse, l'honnête madame de Tourvel ne peut pas m'accorder la première de mes demandes et trahir la confiance de ses amis en me nommant mes accusateurs. Ainsi, en promettant tout à cette condition, je ne m'engage à rien. Mais vous sentez aussi que ce refus qu'elle me fera deviendra un titre pour obtenir tout le reste, et qu'alors je gagne, en m'éloignant, d'entrer avec elle et de son aveu en correspondance réglée, car je compte pour peu le rendez-vous que je lui demande, et qui n'a presque d'autre objet que de l'accoutumer d'avance à n'en pas refuser d'autres quand ils me seront vraiment nécessaires. La seule chose qui me reste à faire avant mon départ est de savoir quels sont les gens qui s'occupent à me nuire auprès d'elle. Je présume que c'est son pédant de mari. Je le voudrais. Outre qu'une défense conjugale est un aiguillon au désir, je serai sûre que du moment que ma belle aura consenti à m'écrire, je n'aurai plus rien à craindre de son mari, puisqu'elle se trouverait déjà dans la nécessité de le tromper. Mais si elle a une amie assez intime pour avoir sa confidence, et que cette amie-là soit contre moi, il me paraît nécessaire de les brouiller, et je compte y réussir. Mais avant tout, il faut être instruit. J'ai bien cru que j'allais l'être hier, mais cette femme ne fait rien comme une autre. Nous étions chez elle au moment où l'on vint avertir que le dîner était servi. Sa toilette se finissait seulement, et tout en se pressant et en faisant des excuses, je m'aperçus qu'elle laissait la clé à son secrétaire, et je connais son usage de ne pas ôter celle de son appartement. J'y rêvais pendant le dîner, lorsque j'entendis descendre sa femme de chambre. Je pris mon parti aussitôt. Je feignis un saignement de nez et sortis. Je volai au secrétaire, mais je trouvai tous les tiroirs ouverts et pas un papier écrit. Cependant, on n'a pas l'occasion de les brûler dans cette saison. Que fait-elle des lettres qu'elle reçoit? Et elle en reçoit souvent. Je n'ai rien négligé. Tout était ouvert et j'ai cherché partout. Mais je n'y ai rien gagné que de me convaincre que ce dépôt précieux reste dans ses poches. Comment l'en tirer? Depuis hier, je m'occupe inutilement d'en trouver les moyens. Cependant, je ne peux en vaincre le désir. Je regrette de n'avoir pas le talent des filous. Ne devrait-il pas, en effet, entrer dans l'éducation d'un homme qui se mêle d'intrigues? Ne serait-il pas plaisant de dérober la lettre ou le portrait d'un rival, ou de tirer des poches d'une prude, de quoi la démasquer? Mais nos parents ne songent à rien. Et moi, j'ai bon songer à tout. Je ne fais que m'apercevoir que je suis gauche, sans pouvoir y remédier. Quoi qu'il en soit, je revins me mettre à table, fort mécontent. Ma belle calma pourtant un peu mon humeur, par l'air d'intérêt que lui donna ma feinte indisposition, et je ne manquais pas de l'assurer que j'avais, depuis quelque temps, de violentes agitations qui altéraient ma santé. Persuadée comme elle est que c'est elle qui les cause, ne devait-elle pas en conscience travailler à les calmer? Mais, quoique dévote, elle est peu charitable. Elle refuse toute aumône amoureuse, et ce refus suffit bien, ce me semble, pour en autoriser le vol. Mais adieu, car tout en causant avec vous, je ne songe qu'à ces maudites lettres. De ce 27 août 1700. Lettre 43, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Pourquoi chercher, monsieur, à diminuer ma reconnaissance? Pourquoi ne vouloir m'obéir qu'à demi, et marchander en quelque sorte un procédé honnête. Il ne vous suffit donc pas que j'en sente le prix. Non seulement vous demandez beaucoup, mais vous demandez des choses impossibles. Si en effet mes amis m'ont parlé de vous, ils ne l'ont pu faire que par intérêt pour moi. Quand même ils se seraient trompés, leur intention n'en était pas moins bonne. Et vous me proposez de reconnaître cette marque d'attachement de leur part en vous livrant leurs secrets. J'ai déjà eu tort de vous en parler, et vous me le faites assez sentir en ce moment. Ce qui n'eût été que de la candeur avec tout autre devient une étourderie avec vous, et me mènerait à une noirceur si je cédais à votre demande. J'en appelle à vous-même, à votre honnêteté. M'avez-vous cru capable de ce procédé? Avez-vous dû me le proposer? Non, sans doute. Et je suis sûre qu'en y réfléchissant mieux, vous ne reviendrez plus sur cette demande. Celle que vous me faites de m'écrire n'est guère plus facile à accorder. Et si vous voulez être juste, ce n'est pas à moi que vous vous en prendrez. Je ne veux point vous offenser, mais avec la réputation que vous vous êtes acquise, et que de votre aveu même, vous méritez du moins en partie. Quelle femme pourrait avouer être en correspondance avec vous? Et quelle femme honnête peut se déterminer à faire ce qu'elle sent qu'elle serait obligée de cacher? Encore si j'étais assurée que vos lettres fussent telles que je n'eusse jamais à m'en plaindre, que je pusse toujours justifier à mes yeux de les avoir reçues. Peut-être alors, le désir de vous prouver que c'est la raison et non la haine qui me guide me ferait passer par-dessus ces considérations puissantes et faire beaucoup plus que je ne devrais en vous permettant de m'écrire quelquefois. Si en effet vous le désirez autant que vous me le dites, vous vous soumettrez volontiers à la seule condition qui puisse m'y faire consentir. Et si vous avez quelque reconnaissance de ce que je fais pour vous en ce moment, vous ne différerez plus de partir. Permettez-moi de vous observer à ce sujet que vous avez reçu une lettre ce matin et que vous n'en avez pas profité pour annoncer votre départ à Madame de Rosemonde, comme vous me l'aviez promis. J'espère qu'à présent, rien ne pourra vous empêcher de tenir votre parole. Je compte surtout que vous n'attendrez pas pour cela l'entretien que vous me demandez et auquel je ne veux absolument pas me prêter, et qu'au lieu de l'ordre que vous prétendez vous être nécessaire, vous vous contenterez de la prière que je vous renouvelle. Adieu, monsieur. De ce 27 août 1700. Lettre 44, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Partagez ma joie, ma belle amie, je suis aimée. J'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore. Mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m'intéresse. Depuis la nuit, l'heureuse nuit d'hier, je me retrouve dans mon élément. J'ai repris toute mon existence. J'ai dévoilé un double mystère d'amour et d'iniquité. Je jouirai de l'un, je me vengerai de l'autre. Je volerai de plaisirs en plaisirs. La seule idée que je m'en fais me transporte au point que j'ai quelque peine à rappeler ma prudence, que j'en aurai peut-être à mettre de l'ordre dans le récit que j'ai à vous faire. Essayons cependant. Hier même, après vous avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie. Vous y verrez qu'elle me donne, le moins maladroitement qu'elle peut, la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire. Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j'étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d'elle de me livrer les poches de sa maîtresse, dont elle pouvait s'emparer aisément le soir, et qu'il lui était facile de replacer le matin sans donner le moindre soupçon. J'offris 10 louis pour ce léger service. Mais je ne trouvais qu'une bégueule, scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchais encore quand le souper sonna. Il fallut la laisser. Trop heureux qu'elle voulût bien me promettre le secret, sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère. Jamais je n'eus plus d'humeur. Je me sentais compromis, et je me reprochais toute la soirée ma démarche imprudente. Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlais à mon chasseur, qui en sa qualité d'amant heureux devait avoir quelque crédit. Je voulais, ou qu'il obtînt de cette fille de faire ce que je lui avais demandé, ou au moins qu'il s'assurât de sa discrétion. Mais lui, qui d'ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation et me fit à ce sujet une réflexion qui m'étonna par sa profondeur. « Monsieur, c'est sûrement mieux que moi, » me dit-il, « que coucher avec une fille, ce n'est que lui faire ce qui lui plaît. De là à lui faire faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. Le bon sens de Marot quelquefois m'épouvante. Je réponds d'autant moins de celle-ci, » ajouta-t-il, « que j'ai lieu de croire qu'elle a un amant, et que je ne la dois qu'au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de monsieur, je n'aurais eu cela qu'une fois. C'est un vrai trésor que ce garçon. Quant au secret, agita-t-il encore, à quoi servira-t-il de le lui faire promettre, puisqu'elle ne risquera rien à nous tromper? Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu'il est important, et par là lui donner plus d'envie d'en faire sa cour à sa maîtresse. Plus ses réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement, le drôle était en train de jaser, et comme j'avais besoin de lui, je le laissais faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m'apprit que comme la chambre qu'elle occupe n'est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison, qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c'était dans la sienne qu'il se rassemblait chaque nuit. Aussitôt, je formai mon plan. Je le lui communiquai, et nous l'exécutâmes avec succès. J'attendis 2 heures du matin, et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, portant de la lumière avec moi, et sous prétexte d'avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d'excuses, que je terminai en l'envoyant me faire chauffer de l'eau, dont je feignis avoir besoin. Tandis que la scrupuleuse chambrière était d'autant plus honteuse que le drôle avait voulu renchérir sur mes projets et l'avait déterminée à une toilette que la saison comportait, mais qu'elle n'excusait pas. Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j'en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure. Et après avoir ordonné à mon valet de m'attendre chez moi, je m'assis à côté d'elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. J'avais besoin de garder l'empire que la circonstance me donnait sur elle. Aussi conservais-je un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion. Et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l'occasion semblaient lui donner le droit d'espérer, je lui parlais d'affaires aussi tranquillement que j'aurais pu faire avec un procureur. Mes conditions furent que je garderai fidèlement le secret, pourvu que le lendemain, à pareille heure à peu près, elle me livra les poches de sa maîtresse. Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert 10 louis hier. Je vous les promets encore aujourd'hui. Je ne veux pas abuser de votre situation. Tout fut accordé, comme vous pouvez croire. Alors je me retirai et permis à l'heureux couple de réparer le temps perdu. J'employai le mien à dormir. Et à mon réveil, voulant avoir un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d'avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse où je restais presque tout le jour. À mon retour, je fus reçu assez froidement. J'ai lieu de croire qu'on fut un peu piqué du peu d'empressement que je mettais à profiter du temps qui me restait, surtout après la lettre plus douce que l'on m'avait écrite. J'en juge ainsi sur ce que Madame de Rosemonde, m'ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d'aigreur. « Ah, ne reprochons pas à Monsieur de Valmont de se livrer au seul plaisir qu'il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j'en profitai pour assurer que je me plaisais tant avec ces dames que j'y sacrifiais une lettre très intéressante que j'avais à écrire. J'ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j'avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait, et mes regards expliquaient assez et le sujet de ma lettre et la cause de mon insomnie. J'eus soin d'avoir toute la soirée une douceur mélancolique, qui me parut réussir assez bien, et sous laquelle je masquai l'impatience où j'étais de voir arriver l'heure qui devait me livrer le secret qu'on s'obstinait à me cacher. Enfin nous nous séparâmes, et quelque temps après, la fidèle femme de chambre vint m'apporter le prix convenu de ma discrétion. Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez, car il était important de remettre tout en place. Je tombai d'abord sur deux lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal, que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvais pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur, mais elle s'adoucit, en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblés. Heureusement, il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie, en y apercevant les traces, bien distinctes, des larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme, et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continuai l'heureux examen. Je retrouvai toutes mes lettres de suite, et par ordre de date. Et ce qui me surprit plus agréablement encore, fut de retrouver la première de toutes, celle que je croyais m'avoir été rendue par une ingrate, fidèlement copiée de sa main, et d'une écriture altérée et tremblante, qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation. Jusque-là, j'étais tout entier à l'amour. Bientôt, il fit place à la fureur. Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore? Quelle furie supposez-vous assez méchante pour tramer une pareille noirceur? Vous la connaissez. C'est votre amie, votre parente. C'est Madame de Volanges. Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. C'est elle, elle seule, qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. C'est par ses conseils, par ses avis pernicieux, que je me vois forcée de m'éloigner. C'est à elle enfin que l'on me sacrifie. Ah, sans doute il faut séduire sa fille, mais ce n'est pas assez, il faut la perdre. Et puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris. Elle m'y force. Soit, j'y retournerai, mais elle gémira de mon retour. Je suis fâchée que Danceny soit le héros de cette aventure. Il a un fond d'honnêteté qui nous gênera. Cependant, il est amoureux et je le vois souvent. On pourra peut-être en tirer parti. Je m'oublie dans ma colère et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi. Le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme dont on parle toujours, et qu'on éprouve si rarement, et celui où, assuré de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. Et c'est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l'idée que j'allais être privée du plaisir de la voir servait-il à l'embellir. Enfin, à l'arrivée du courrier, on m'a remis votre lettre du 27, et pendant que je la lisais, j'hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole. Mais j'ai rencontré les yeux de ma belle, et il m'aurait été impossible de lui rien refuser. J'ai donc annoncé mon départ. Un instant après, Madame de Rosemonde nous a laissés seuls. Mais j'étais encore à quatre pas de la farouche personne, qui, se levant avec l'air d'effroi, « Laissez-moi, laissez-moi, monsieur » m'a-t-elle dit. « Au nom de Dieu, laissez-moi !» Cette prière fervente qui décelait son émotion ne pouvait que m'animer davantage. Déjà, j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante. Là, je commençais de tendres plaintes, quand un démon ennemi ramena Madame de Rosemonde. La timide dévote, qui a en effet quelques raisons de craindre, en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée, et augurant bien de cette douceur, qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes, j'ai essayé de serrer la sienne. Elle a d'abord voulu la retirer, mais sur une instance plus vive, elle s'est livrée d'assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste ni à mes discours. Arrivée à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main avant de la quitter. La défense a commencé par être franche, mais un « songez donc que je pars » prononcé bien tendrement l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Comme je présume que vous serez demain chez la maréchale de... où sûrement je n'irai pas vous trouver, comme je me doute bien aussi qu'à notre première entrevue, nous aurons plus d'une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volange que je ne perds pas de vue, j'ai pris le parti de me faire précéder par cette lettre. Et toute longue qu'elle est, je ne la fermerai qu'au moment de l'envoyer à la poste. Car, au terme où j'en suis, tout peut dépendre d'une occasion. Et je vous quitte pour aller les pieds. Post-scriptum à 8 heures du soir. Rien de nouveau. Pas le plus petit moment de liberté. Du soin même pour l'éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait, pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c'est que je suis chargée d'une invitation de Madame de Rosemonde à Madame de Volanges pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Adieu, ma belle amie. À demain ou après-demain au plus tard. De ce 28 août 1700. Lettre 45. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Monsieur de Valmont est parti ce matin, madame. Vous m'avez paru tant désirer ce départ que j'ai cru devoir vous en instruire. Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu'en effet la société est agréable. Elle a passé toute la matinée à m'en parler avec la sensibilité que vous lui connaissez. Elle ne tarissait pas sur son éloge. J'ai cru lui devoir la complaisance de l'écouter sans la contredire, d'autant qu'il faut avouer qu'elle avait raison sur beaucoup de points. Je sentais de plus que j'avais à me reprocher d'être la cause de cette séparation, et je n'espère pas pouvoir la dédommager du plaisir dont je l'ai privée. Vous savez que j'ai naturellement peu de gaieté, et le genre de vie que nous allons mener ici n'est pas fait pour l'augmenter. Si je ne m'étais pas conduite d'après vos avis, je craindrais d'avoir agi un peu légèrement, car j'ai été vraiment peinée de la douleur de ma respectable amie. Elle m'a touchée au point que j'aurais volontiers mêlé mes larmes aux siennes. Nous vivons à présent dans l'espoir que vous accepterez l'invitation que Monsieur de Valmont doit vous faire, de la part de Madame de Rosemonde, de venir passer quelque temps chez elle. J'espère que vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous y voir. Et en vérité, vous nous devez ce dédommagement. Je serai fort aise de trouver cette occasion de faire une connaissance plus prompte avec Mademoiselle de Volanges et d'être à portée de vous convaincre de plus en plus des sentiments respectueux, etc. De ce 29 août 1700. Lettre 46. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Que vous est-il donc arrivé, mon adorable Cécile? Qui a pu causer en vous un changement si prompt et si cruel? Que sont devenus vos serments de ne jamais changer? Hier encore, vous les réitériez avec tant de plaisir. Qui peut aujourd'hui vous les faire oublier? J'ai beau m'examiner, je ne puis en trouver la cause en moi, et il m'est affreux d'avoir à la chercher en vous. Ah, sans doute, vous n'êtes ni légère, ni trompeuse. Et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Cependant, par quelle fatalité n'êtes-vous plus la même? Non, cruelle, vous n'êtes plus. La tendre Cécile, la Cécile que j'adore et dont j'ai reçu les serments, n'aurait point évité mes regards, n'aurait point contrarié le hasard heureux qui me plaçait auprès d'elle. Ou si quelque raison que je ne peux concevoir l'avait forcée à me traiter avec tant de rigueur, elle n'eut pas au moins dédaigné de m'en instruire. Ah, vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, ma Cécile, ce que vous m'avez fait souffrir aujourd'hui, ce que je souffre encore en ce moment. Croyez-vous donc que je puisse vivre et ne plus être aimée de vous? Cependant, quand je vous ai demandé un mot, un seul mot pour dissiper mes craintes, au lieu de me répondre, vous avez feint de craindre d'être entendue. Et cet obstacle qui n'existait pas alors, vous l'avez fait naître aussitôt, par la place que vous avez choisie dans le cercle. Quand forcé de vous quitter, je vous ai demandé l'heure à laquelle je pourrais vous revoir demain, vous avez feint de l'ignorer, et il a fallu que ce fût Madame de Volanges qui m'en instruisît. Ainsi ce moment toujours désiré, qui doit me rapprocher de vous, demain, ne fera naître en moi que de l'inquiétude, et le plaisir de vous voir, jusqu'alors si cher à mon cœur, sera remplacé par la crainte de vous être importun. Déjà, je le sens, cette crainte m'arrête, et je n'ose plus vous parler de mon amour. Ce « je vous aime » que j'aimais tant à répéter quand je pouvais l'entendre à mon tour, ce mot si doux qui suffisait à ma félicité, ne m'offre plus, si vous êtes changé, que l'image d'un désespoir éternel. Je ne puis croire pourtant que ce talisman de l'amour ait perdu toute sa puissance, et j'essaie de m'en servir encore. Oui, ma Cécile, je vous aime. Répétez donc avec moi cette expression de mon bonheur. Songez que vous m'avez accoutumé à l'entendre, et que m'en priver, c'est me condamner à un tourment qui, de même que mon amour, ne finira qu'avec ma vie. De ce 29 août 1700. Lettre 47, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je ne vous verrai pas encore aujourd'hui, ma belle amie, et voici mes raisons, que je vous prie de recevoir avec indulgence. Au lieu de revenir hier directement, je me suis arrêtée chez la comtesse de, dont le château se trouvait presque sur ma route, et à qui j'ai demandé à dîner. Je ne suis arrivée à Paris que vers les 7 heures, et je suis descendue à l'opéra, où j'espérais que vous pouviez être. L'opéra fini, j'ai été revoir mes amis du foyer. J'y retrouvais mon ancienne Émilie, entourée d'une cour nombreuse, tant en femme qu'en homme, à qui elle donnait le soir même à souper et à paix. Je ne fus pas plutôt entrée dans ce cercle que je fus priée du souper par acclamation. Je le fus aussi par une petite figure grosse et courte, qui me baragouina une invitation en français de Hollande, et que je reconnus pour le véritable héros de la fête. J'acceptai. J'appris dans la route que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d'Émilie pour cette figure grotesque, et que ce souper était un véritable repas de noces. Le petit homme ne se possédait pas de joie dans l'attente du bonheur dont il allait jouir. Il m'en parut si satisfait qu'il me donna envie de le troubler. Ce que je fis, en effet. La seule difficulté que j'éprouvai fut de décider Émilie, que la richesse du bourgmestre rendait un peu scrupuleuse. Elle se prêta pourtant, après quelque façon, au projet que je donnais de remplir de vin ce petit tonneau à bière et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit. L'idée sublime que nous nous étions formés d'un buveur hollandais nous fit employer tous les moyens connus. Nous réussîmes si bien qu'au dessert il n'avait déjà plus la force de tenir son verre. Mais la secourable Émilie et moi l'entonnions à qui mieux mieux. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle qu'elle doit au moins durer 8 jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris, et comme il n'avait pas gardé sa voiture, je le fis charger dans la mienne, et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l'assemblée, qui se retira bientôt après, et me laissa maître du champ de bataille. Cette gaieté, et peut-être ma longue retraite, m'ont fait trouver Émilie si désirable que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à la résurrection du Hollandais. Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir, de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit, et presque d'entre les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rends un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle, et j'espère que vous en rirez aussi. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie. Je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter et la faire mettre à la poste. Surtout n'allez pas vous servir de votre cachet, ni même d'aucun emblème amoureux. Une tête seulement. Adieu, ma belle amie. Postscriptum. Je rouvre ma lettre. J'ai décidé, Émilie, à aller aux Italiens. Je profiterai de ce temps pour aller vous voir. Je serai chez vous à 6 heures au plus tard. Et si cela vous convient, nous irons ensemble sur les 7 heures chez madame de Volanges. Il sera décent que je ne diffère pas l'invitation que j'ai à lui faire de la part de madame de Rosemonde. De plus, je serai bien aise de voir la petite Volanges. Adieu, la très belle dame. Je veux avoir tant de plaisir à vous embrasser que le chevalier puisse en être jaloux. De P, ce 30 août 1700. Lettre 48, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, timbrée de Paris. C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse, ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante, ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme, que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin, et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître, plus que jamais, la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées. Et déjà, je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligée de l'interrompre. Quoi ? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment ? J'ose croire cependant que si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes. Elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier, dans le délire qu'il me cause, le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis, dans cette occupation, une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, au désordre de mes sens. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous convaincre? Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop dans ce moment combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux. Jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés. Et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Écrite de P, datée de Paris, ce 30 août 1700. Lettre 49, Cécile Volanges au chevalier Danceny. Sans être ni légère ni trompeuse, il me suffit, monsieur, d'être éclairée sur ma conduite pour sentir la nécessité d'en changer. J'en ai promis le sacrifice à Dieu, jusqu'à ce que je puisse lui offrir aussi celui de mes sentiments pour vous, que l'état religieux dans lequel vous êtes rend plus criminel encore. Je sens bien que cela me fera de la peine, et je ne vous cacherai pas que depuis avant-hier, j'ai pleuré toutes les fois que j'ai songé à vous. Mais j'espère que Dieu me fera la grâce de me donner la force nécessaire pour vous oublier, comme je la lui demande soir et matin. J'attends même de votre amitié et de votre honnêteté que vous ne chercherez pas à me troubler dans la bonne résolution qu'on m'a inspirée et dans laquelle je tâche de me maintenir. En conséquence, je vous demande d'avoir la complaisance de ne plus m'écrire, d'autant que je vous préviens que je ne vous répondrai plus et que vous me forceriez d'avertir maman de tout ce qui se passe, ce qui me priverait tout à fait du plaisir de vous voir. Je n'en conserverai pas moins pour vous tout l'attachement qu'on puisse avoir, sans qu'il y ait du mal. Et c'est bien de toute mon âme que je vous souhaite toutes sortes de bonheur. Je sens bien que vous allez ne plus m'aimer autant, et que peut-être vous en aimerez bientôt une autre, mieux que moi. mais ce sera une pénitence de plus de la faute que j'ai commise en vous donnant mon cœur, que je ne devais donner qu'à Dieu et à mon mari quand j'en aurai un. J'espère que la miséricorde divine aura pitié de ma faiblesse et qu'elle ne me donnera de peine que ce que j'en pourrai supporter. Adieu, monsieur. Je peux bien vous assurer que s'il m'était permis d'aimer quelqu'un, ce ne serait jamais que vous que j'aimerais. Mais voilà tout ce que je peux vous dire, et c'est peut-être même plus que je ne devrais. 2. Ce 31 août 1700. Lettre 50. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Est-ce donc ainsi, monsieur, que vous remplissez les conditions auxquelles j'ai consenti à recevoir quelquefois de vos lettres? Et puis-je ne pas avoir à m'en plaindre, quand vous ne m'y parlez que d'un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais sans blesser tous mes devoirs? Au reste, si j'avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me semble que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre. En effet, dans le moment même où vous croyez faire l'apologie de l'amour, que faites-vous au contraire que m'en montrer les orages redoutables? Et qui peut vouloir d'un bonheur acheté au prix de la raison, et dont les plaisirs peu durables sont aux mains suivis de regrets, quand ils ne le sont pas des remords? Vous-même, chez qui l'habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l'effet, n'êtes-vous pas cependant obligé de convenir qu'il devient souvent plus fort que vous? Et n'êtes-vous pas le premier à vous plaindre du trouble involontaire qu'il vous cause? Quel ravage effrayant ne ferait-il donc pas sur un cœur neuf et sensible, qui ajouterait encore à son empire par la grandeur des sacrifices qu'il serait obligé de lui faire? Vous croyez, monsieur, ou vous feignez de croire, que l'amour mène au bonheur. Et moi, je suis si persuadée qu'il me rendrait malheureuse que je voudrais n'entendre jamais prononcer son nom. Il me semble que d'en parler seulement altère la tranquillité. Et c'est autant par goût que par devoir que je vous prie de vouloir bien garder le silence sur ce point. Après tout, cette demande doit vous être bien facile à m'accorder à présent. De retour à Paris, vous y trouverez assez d'occasions d'oublier un sentiment qui peut-être n'a dû sa naissance qu'à l'habitude où vous êtes de vous occuper de semblables objets, et sa force qu'au désœuvrement de la campagne. N'êtes-vous donc pas dans ce même lieu où vous m'aviez vu avec tant d'indifférence? Y pouvez-vous faire un pas sans y rencontrer un exemple de votre facilité à changer? Et n'y êtes-vous pas entouré de femmes qui toutes, plus aimables que moi, ont plus de droit à vos hommages? Je n'ai pas la vanité qu'on reproche à mon sexe. J'ai encore moins cette fausse modestie qui n'est qu'un raffinement de l'orgueil. Et c'est de bien bonne foi que je vous dis ici que je me connais bien peu de moyens de plaire. Je les aurai tous, que je ne les croirai pas suffisants pour vous fixer. Vous demandez de ne plus vous occuper de moi, ce n'est donc que vous prier de faire aujourd'hui ce que déjà vous aviez fait, et ce qu'à coup sûr vous feriez encore dans peu de temps, quand même je vous demanderai le contraire. Cette vérité que je ne perds pas de vue serait à elle seule une raison assez forte pour ne pas vouloir vous entendre. J'en ai mille autres encore. Mais sans entrer dans cette longue discussion, je m'en tiens à vous prier, comme je l'ai déjà fait, de ne plus m'entretenir d'un sentiment que je ne dois pas écouter et auquel je dois encore moins répondre. D. Ce 1er septembre 1700. Lettre 51. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes insupportable. Vous me traitez avec autant de légèreté que si j'étais votre maîtresse. Savez-vous que je me fâcherai et que j'ai dans ce moment une humeur effroyable? Comment? Vous devez voir Danceny demain matin. Vous savez combien il est important que je vous parle avant cette entrevue. Et sans vous inquiéter davantage, vous me laissez vous attendre toute la journée pour aller courir je ne sais où. Vous êtes cause que je suis arrivée indécemment tard chez Madame de Volanges et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Il m'a fallu leur faire des cajoleries toute la soirée pour les apaiser. Car il ne faut pas fâcher les vieilles femmes, ce sont elles qui font la réputation des jeunes. À présent, il est 1 heure du matin et au lieu de me coucher, comme j'en meurs d'envie, il faut que je vous écrive une longue lettre qui va redoubler mon sommeil par l'ennui qu'elle me causera. Vous êtes bien heureux que je n'ai pas le temps de vous gronder davantage. N'allez pas croire pour cela que je vous pardonne, c'est seulement que je suis pressée. Écoutez-moi donc, je me dépêche. Pour peu que vous soyez adroit, vous devez avoir demain la confidence de Danceny. Le moment est favorable pour la confiance, c'est celui du malheur. La petite fille a été à confesse, elle a tout dit, comme un enfant. Et depuis, elle est tourmentée à un tel point de la peur du diable qu'elle veut rompre absolument. Elle m'a raconté tous ses petits scrupules, avec une vivacité qui m'apprenait assez combien sa tête était montée. Elle m'a montré sa lettre de rupture, qui est une vraie capucinade. Elle a babillé une heure avec moi, sans me dire un mot qui ait le sens commun. Mais elle ne m'en a pas moins embarrassée, car vous jugez que je ne pouvais pas risquer de m'ouvrir vis-à-vis d'une aussi mauvaise tête. J'ai vu pourtant au milieu de tout ce bavardage qu'elle n'en aime pas moins son Danceny. J'ai remarqué même une de ses ressources qui ne manque jamais à l'amour, et dont la petite fille est assez plaisamment la dupe. Tourmentée par le désir de s'occuper de son amant, et par la crainte de se damner en s'en occupant, elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier. Et comme elle renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d'y penser sans cesse. Avec quelqu'un de plus usagé que Danceny, ce petit événement serait peut-être plus favorable que contraire. Mais le jeune homme est si céladon que si nous ne l'aidons pas, il lui faudra tant de temps pour vaincre les plus légers obstacles qu'il ne nous laissera pas celui d'effectuer notre projet. Vous avez bien raison, c'est dommage, et je suis aussi fâchée que vous qu'il soit le héros de cette aventure. Mais que voulez-vous ? Ce qui est fait, et c'est votre faute. J'ai demandé à voir sa réponse. Elle m'a fait pitié. Il lui fait des raisonnements à perte d'haleine pour lui prouver qu'un sentiment involontaire ne peut pas être un crime. Comme s'il ne cessait pas d'être involontaire du moment qu'on cesse de le combattre. Cette idée est si simple qu'elle est venue même à la petite fille. Il se plaint de son malheur d'une manière assez touchante, mais sa douleur est si douce et paraît si forte et si sincère qu'il me semble impossible qu'une femme qui trouve l'occasion de désespérer un homme à ce point, et avec aussi peu de danger, ne soit pas tentée de s'en passer la fantaisie. Il lui explique enfin qu'il n'est pas moine, comme la petite le croyait, et c'est sans contredit ce qu'il fait de mieux. Car pour faire tant que de se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Quoi qu'il en soit, au lieu de perdre mon temps en raisonnements qui m'auraient compromise et peut-être sans persuader, j'ai approuvé le projet de rupture. Mais j'ai dit qu'il était plus honnête, en pareil cas, de dire ses raisons que de les écrire. Qu'il était d'usage aussi de rendre les lettres et les autres bagatelles qu'on pouvait avoir reçues. Et paraissant entrer ainsi dans les vues de la petite personne, je l'ai décidé à donner un rendez-vous à Danceny. Nous en avons sur le champ concerté les moyens, et je me suis chargée de décider la mère à sortir sans sa fille. C'est demain après-midi que sera cette instance décisive. Danceny en est déjà instruit. Mais pour Dieu, si vous en trouvez l'occasion, décidez donc ce beau berger à être moins langoureux, et apprenez-lui, puisqu'il faut tout lui dire, que la vraie façon de vaincre les scrupules est de ne laisser rien à perdre à ceux qui en ont. Au reste, pour que cette ridicule scène ne se renouvelât pas, je n'ai pas manqué d'élever quelques doutes dans l'esprit de la petite fille sur la discrétion des confesseurs. Et je vous assure qu'elle paie à présent la peur qu'elle m'a faite, par celle qu'elle a que le sien aille tout dire à sa mère. J'espère qu'après que j'en aurai causé encore une fois ou deux avec elle, elle n'ira plus raconter ainsi ses sottises au premier venu. Adieu, vicomte. Emparez-vous de Danceny et conduisez-le. Il serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons de deux enfants. Si nous y trouvons plus de peine que nous ne l'avions cru d'abord, songeons pour animer notre zèle, vous. Il s'agit de la fille de Madame de Volanges. Et moi, qu'elle doit devenir la femme de Gercourt. Adieu. De ce 2 septembre 1700. Lettre 52, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Vous me défendez, madame, de vous parler de mon amour. Mais où trouver le courage nécessaire pour vous obéir ? Uniquement occupé d'un sentiment qui devrait être si doux et que vous rendez si cruel, languissant dans l'exil où vous m'avez condamné, ne vivant que de privations et de regrets, en proie à des tourments, d'autant plus douloureux qu'il me rappelle sans cesse votre indifférence. Me faudra-t-il encore perdre la seule consolation qui me reste? Et puis-je en avoir d'autre que de vous ouvrir quelquefois une âme que vous remplissez de troubles et d'amertume? Détournerez-vous vos regards pour ne pas voir les pleurs que vous faites répandre? Refuserez-vous jusqu'à l'hommage des sacrifices que vous exigez? Ne serait-il donc pas plus digne de vous, de votre âme honnête et douce, de plaindre un malheureux qui ne l'est que par vous, que de vouloir encore aggraver ses peines par une défense à la fois injuste et rigoureuse? Vous feignez de craindre l'amour, et vous ne voulez pas voir que vous seul causez les maux que vous lui reprochez. Ah, sans doute, ce sentiment est pénible quand l'objet qu'il inspire ne le partage point. Mais où trouver le bonheur si un amour réciproque ne le procure pas? L'amitié tendre, la douce confiance est la seule qui soit sans réserve. Les peines adoucies, les plaisirs augmentés, l'espoir enchanteur, les souvenirs délicieux. Où les trouver ailleurs que dans l'amour? Vous le calomniez, vous qui, pour jouir de tous les biens qu'il vous offre, n'avez qu'à ne plus vous y refuser. Et moi, j'oublie les peines que j'éprouve pour m'occuper à le défendre. Vous me forcez aussi à me défendre moi-même, car tandis que je consacre ma vie à vous adorer, vous passez la vôtre à me chercher des torts. Déjà, vous me supposez léger et trompeur, et abusant contre moi de quelques erreurs dont moi-même je vous ai fait l'aveu, vous vous plaisez à confondre ce que j'étais alors avec ce que je suis à présent. Non contente de m'avoir livrée au tourment de vivre loin de vous, vous y joignez un persiflage cruel sur des plaisirs auxquels vous savez assez combien vous m'avez rendu insensible. Vous ne croyez ni à mes promesses, ni à mes serments. Eh bien, il me reste un garant à vous offrir, qu'au moins vous ne suspecterez pas. C'est vous-même. Je ne vous demande que de vous interroger de bonne foi. Si vous ne croyez pas à mon amour, si vous doutez un moment de régner seul sur mon âme, si vous n'êtes pas assuré d'avoir fixé ce cœur, en effet, jusqu'ici trop volage, je consens à porter la peine de cette erreur. J'en gémirai, mais n'en appellerai point. Mais si, au contraire, nous rendant justice à tous deux, vous êtes forcé de convenir avec vous-même que vous n'avez, que vous n'aurez jamais de rival, ne m'obligez plus, je vous supplie, à combattre des chimères. Et laissez-moi au moins cette consolation de vous voir ne plus douter d'un sentiment qui, en effet, ne finira, ne peut finir qu'avec ma vie. Permettez-moi, madame, de vous prier de répondre positivement à cet article de ma lettre. Si j'abandonne cependant cette époque de ma vie qui paraît me nuire si cruellement auprès de vous, ce n'est pas qu'au besoin les raisons me manquassent pour la défendre. Qu'ai-je fait, après tout, que ne pas résister au tourbillon dans lequel j'avais été jetée? Entrer dans le monde jeune et sans expérience, passer pour ainsi dire de main en main par une foule de femmes qui toutes se hâtent de prévenir par leur facilité une réflexion qu'elles sentent devoir leur être défavorable. Était-ce donc à moi de donner l'exemple d'une résistance qu'on ne m'opposait point? Ou devais-je me punir d'un moment d'erreur et que souvent on avait provoqué par une constance à coup sûr inutile et dans laquelle on n'aurait vu qu'un ridicule? Et quel autre moyen qu'une prompte rupture peut justifier d'un choix honteux? Mais, je puis le dire, cette ivresse des sens, peut-être même ce délire de la vanité, n'a point passé jusqu'à mon cœur. Né pour l'amour, l'intrigue pouvait le distraire et ne suffisait pas pour l'occuper. Entouré d'objets séduisants mais méprisables, aucun n'allait jusqu'à mon âme. On m'offrait des plaisirs, je cherchais des vertus. Et moi-même enfin je me crus inconstant, parce que j'étais délicat et sensible. C'est en vous voyant que je me suis éclairée. Bientôt, j'ai reconnu que le charme de l'amour tenait aux qualités de l'âme, qu'elle seule pouvait en causer l'excès et le justifier. Je sentis enfin qu'il m'était également impossible et de ne pas vous aimer, et d'en aimer une autre que vous. Voilà, madame, quel est ce cœur auquel vous craignez de vous livrer, et sur le sort de qui vous avez à prononcer. Mais quel que soit le destin que vous lui réservez, vous ne changerez rien aux sentiments qu'il attache à vous. Ils sont inaltérables, comme les vertus qui les ont fait naître. De ce 3 septembre 1700. Lettre 53, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. J'ai vu Danceny, mais je n'en ai obtenu qu'une demi-confidence. Il s'est obstiné surtout à me taire le nom de la petite Volange, dont il ne m'a parlé que comme d'une femme très sage et même un peu dévote. À cela près, il m'a raconté avec assez de vérité son aventure et surtout le dernier événement. Je l'ai échauffé autant que j'ai pu. Il est beaucoup plaisanté sur sa délicatesse et ses scrupules. Mais il paraît qu'il y tient, et je ne puis pas répondre de lui. Au reste, je pourrai vous en dire davantage après-demain. Je le mène demain à Versailles, et je m'occuperai à le scruter pendant la route. Le rendez-vous qui doit avoir eu lieu aujourd'hui me donne aussi quelque espérance. Il se pourrait que tout s'y fût passé à notre satisfaction. Et peut-être ne nous reste-t-il à présent qu'à en arracher l'aveu et à en recueillir les preuves. Cette besogne vous sera plus facile qu'à moi, car la petite personne est plus confiante, ou ce qui revient au même, plus bavarde que son discret amoureux. Cependant, j'y ferai mon possible. Adieu, ma belle amie, je suis fort pressée. Je ne vous verrai ni ce soir, ni demain. Si de votre côté vous avez su quelque chose, écrivez-moi un mot pour mon retour. Je reviendrai sûrement coucher à Paris. De ce 3 septembre 1700 au soir. Lettre 54, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Oh oui, c'est bien avec Danceny qu'il y a quelque chose à savoir. S'il vous l'a dit, il s'est vanté. Je ne connais personne de si bête en amour, et je me reproche de plus en plus les bontés que nous avons pour lui. Savez-vous que j'ai pensé être compromise par rapport à lui, et que ce soit en pure perte? Oh, je m'en vengerai, je le promets. Quand j'arrivais hier pour prendre Madame de Volanges, elle ne voulait plus sortir. Elle se sentait incommodée. Il me fallut toute mon éloquence pour la décider, et je vis le moment que Danceny serait arrivé avant notre départ. Ce qui eût été d'autant plus gauche que Madame de Volanges lui avait dit la veille qu'elle ne serait pas chez elle. Sa fille et moi, nous étions sur les épines. Nous sortîmes enfin. Et la petite me serra la main si affectueusement en me disant adieu que malgré son projet de rupture dont elle croyait de bonne foi s'occuper encore, j'augurais des merveilles de la soirée. Je n'étais pas au bout de mes inquiétudes. Il y avait à peine une demi-heure que nous étions chez Madame de... que Madame de Volanges se trouva mal, en effet, mais sérieusement mal. Et comme de raison, elle voulait rentrer chez elle. Moi, je le voulais d'autant moins que j'avais peur, si nous surprenions les jeunes gens, comme il y avait tout à parier, que mes instances auprès de la mère pour la faire sortir ne lui devinssent suspectes. Je pris le parti de l'effrayer sur sa santé, ce qui heureusement n'est pas difficile, et je l'atteins 1 heure et demie, sans consentir à la ramener chez elle, dans la crainte que je feignis d'avoir du mouvement dangereux de la voiture. Nous ne rentrâmes enfin qu'à l'heure convenue. À l'air honteux que je remarquais en arrivant, j'avoue que j'espérais qu'au moins mes peines n'auraient pas été perdues. Le désir que j'avais d'être instruite me fit rester auprès de Madame de Volanges, qui se coucha aussitôt, et après avoir soupé auprès de son lit, nous la laissâmes de très bonne heure, sous le prétexte qu'elle avait besoin de repos, et nous passâmes dans l'appartement de sa fille. Celle-ci a fait, de son côté, tout ce que j'attendais d'elle. Scrupules évanouis, nouveaux serments d'aimer toujours, etc., etc. Elle s'est enfin exécutée de bonne grâce. Mais le sot Danceny n'a pas passé d'une ligne le point où il était auparavant. Ah, l'on peut se brouiller avec celui-là. Les raccommodements ne sont pas dangereux. La petite assure pourtant qu'il voulait davantage, mais qu'elle a su se défendre. Je parierais bien qu'elle se vante ou bien qu'elle l'excuse. Je m'en suis même presque assurée. En effet, il m'a pris fantaisie de savoir à quoi m'en tenir sur la défense dont elle était capable. Et moi, simple femme, de propos en propos, j'ai monté sa tête au point... Enfin, vous pouvez m'en croire. Jamais personne ne fut plus susceptible d'une surprise d'essence. Elle est vraiment aimable, cette chère petite. Elle méritait un autre amant. Elle aura au moins une bonne amie, car je m'attache sincèrement à elle. Je lui ai promis de la former, et je crois que je lui tiendrai parole. je me suis souvent aperçue du besoin d'avoir une femme dans ma confidence, et j'aimerais mieux celle-là qu'une autre. Mais je ne puis en rien faire tant qu'elle ne sera pas ce qu'il faut qu'elle soit. Et c'est une raison de plus d'en vouloir à Danceny. Adieu, vicomte. Ne venez pas chez moi demain, à moins que ce ne soit le matin. J'ai cédé aux instances du chevalier pour une soirée de petite maison. De ce 4 septembre 1700. Lettre 55, Cécile Volanges à Sophie Carnet. Tu avais raison, ma chère Sophie. Tes prophéties réussissent mieux que tes conseils. Danceny, comme tu l'avais prédit, a été plus fort que le confesseur, que toi, que moi-même. Et nous voilà revenus exactement où nous en étions. Ah, je ne m'en repens pas. Et toi, si tu m'en grondes, ce sera faute de savoir le plaisir qu'il y a à aimer Danceny. Il t'est bien aisé de dire comme il faut faire, rien ne t'en empêche. Mais si tu avais éprouvé combien le chagrin de quelqu'un qu'on aime nous fait mal, comme sa joie devient la nôtre, et comment il est difficile de dire non quand c'est oui que l'on veut dire, tu ne t'étonnerais plus de rien. Moi-même qui l'ai senti, bien vivement senti, je ne le comprends pas encore. Crois-tu, par exemple, que je puisse voir pleurer Danceny sans pleurer moi-même? Je t'assure bien que cela m'est impossible. Et quand il est content, je suis heureuse comme lui. Tu auras beau dire, ce qu'on dit ne change pas ce qui est, et je suis bien sûre que c'est comme ça. Je voudrais te voir à ma place. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire, car sûrement je ne voudrais céder ma place à personne. Mais je voudrais que tu aimasses aussi quelqu'un. Ce ne serait pas seulement pour que tu m'entendisses mieux et que tu me grondasses moins, car c'est qu'aussi tu serais plus heureuse, ou pour mieux dire, tu commencerais seulement alors à le devenir. Nos amusements, nos rires, tout cela, vois-tu, ce ne sont que des jeux d'enfants. Il n'en reste rien après qu'ils sont passés. Mais l'amour, ah l'amour, un mot, un regard, seulement de le savoir là, eh bien, c'est le bonheur. Quand je vois Danceny, je ne désire plus rien. Quand je ne le vois pas, je ne désire que lui. Je ne sais comment cela se fait, mais on dirait que tout ce qui me plaît lui ressemble. Quand il n'est pas avec moi, j'y songe. Et quand je peux y songer tout à fait, sans distraction, quand je suis toute seule, par exemple, je suis encore heureuse. Je ferme les yeux et tout de suite je crois le voir. Je me rappelle ses discours et je crois l'entendre. Cela me fait soupirer. Et puis je sens un feu, une agitation. Je ne saurais tenir en place. C'est comme un tourment. Et ce tourment-là fait un plaisir inexprimable. Je crois même que quand une fois on a de l'amour, cela se répand jusque sur l'amitié. Celle que j'ai pour toi n'a pourtant pas changé. C'est toujours comme au couvent. Mais ce que je te dis, je l'éprouve avec Madame de Merteuil. Il me semble que je l'aime plus comme Danceny que comme toi. Et quelquefois, je voudrais qu'elle fût lui. Cela vient peut-être de ce que ce n'est pas une amitié d'enfant comme la nôtre, ou bien de ce que je les vois si souvent ensemble, ce qui fait que je me trompe. Enfin, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'à eux deux, ils me rendent bien heureuse. Et après tout, je ne crois pas qu'il y ait grand mal à ce que je fais. Aussi, je ne demanderai qu'à rester comme je suis. Et il n'y a que l'idée de mon mariage qui me fasse de la peine. Car si Monsieur de Gercourt est comme on me l'a dit, et je n'en doute pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Adieu, ma Sophie, je t'aime toujours bien tendrement. De ce 4 septembre 1700. Lettre 56, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. À quoi vous servirait, monsieur, la réponse que vous me demandez? Croire à vos sentiments, ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre? Et sans attaquer ni défendre leur sincérité, ne me suffit-il pas, ne doit-il pas vous suffire à vous-même de savoir que je ne veux ni ne dois y répondre? Supposez que vous m'aimiez véritablement, et c'est seulement pour ne plus revenir sur cet objet que je consens à cette supposition. Les obstacles qui nous séparent en seraient-ils moins insurmontables? Et aurais-je autre chose à faire qu'à souhaiter que vous puissiez bientôt vaincre cet amour? Et surtout à vous y aider de tout mon pouvoir en me hâtant de vous ôter toute espérance. Vous convenez vous-même que ce sentiment est pénible quand l'objet qu'il inspire ne le partage point. Or vous savez assez qu'il m'est impossible de le partager, et quand même ce malheur m'arriverait, j'en serais plus à plaindre sans que vous en fussiez plus heureux. J'espère que vous m'estimez assez pour n'en pas douter un instant. Cessez donc, je vous en conjure, cessez de vouloir troubler un cœur à qui la tranquillité est si nécessaire. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connue. Chérie et estimée d'un mari que j'aime et respecte, mes devoirs et mes plaisirs se rassemblent dans le même objet. Je suis heureuse, je dois l'être. S'il existe des plaisirs plus vifs, je ne les désire pas. Je ne veux point les connaître. En est-il de plus doux que d'être en paix avec soi-même, de n'avoir que des jours sereins, de s'endormir sans trouble et de s'éveiller sans remords? Ce que vous appelez le bonheur n'est qu'un tumulte des sens, un orage des passions dont le spectacle est effrayant, même à le regarder du rivage. Et comment affronter ces tempêtes? Comment oser s'embarquer sur une mer couverte des débris de mille et mille naufrages? Et avec qui? Non, monsieur, je reste à terre. Je chéris les liens qui m'y attachent. Je pourrais les rompre, que je ne le voudrais pas. Si je ne les avais, je me hâterais de les prendre. Pourquoi vous attacher à mes pas? Pourquoi vous obstiner à me suivre? Vos lettres, qui devaient être rares, se succèdent avec rapidité. Elles devaient être sages, et vous ne m'y parlez que de votre fol amour. Vous m'entourez de votre idée, plus que vous ne le faisiez de votre personne. Écarté sous une forme, vous vous reproduisez sous une autre. Les choses qu'on vous demande de ne plus dire, vous les redites seulement d'une autre manière. Vous vous plaisez à m'embarrasser par des raisonnements captieux. Vous échappez aux miens. Je ne veux plus vous répondre, je ne vous répondrai plus. Comme vous traitez les femmes que vous avez séduites, avec quel mépris vous en parlez? Je veux croire que quelques-unes le méritent, mais toutes sont-elles donc si méprisables? Ah, sans doute, puisqu'elles ont trahi leur devoir pour se livrer à un amour criminel. De ce moment, elles ont tout perdu, jusqu'à l'estime de celui à qui elles ont tout sacrifié. Ce supplice est juste, mais l'idée seule en fait frémir. Que m'importe après tout? Pourquoi m'occuperais-je d'elle ou de vous? De quel droit venez-vous troubler ma tranquillité? Laissez-moi, ne me voyez plus. Ne m'écrivez plus, je vous en prie. Je l'exige. Cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi. De ce 5 septembre 1700. Lettre 57, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. J'ai trouvé votre lettre hier à mon arrivée. Votre colère m'a tout à fait réjoui. Vous ne sentiriez pas plus vivement les torts de Danceny quand il les aurait eus vis-à-vis de vous. C'est sans doute par vengeance que vous accoutumez sa maîtresse à lui faire de petites infidélités. Vous êtes un bien mauvais sujet. Oui, vous êtes charmante, et je ne m'étonne pas qu'on vous résiste moins qu'à Danceny. Enfin, je le sais par cœur, ce beau héros de roman. Il n'a plus de secret pour moi. Je lui ai tant dit que l'amour honnête était le bien suprême, qu'un sentiment valait mieux que 10 intrigues, que j'étais moi-même, dans ce moment, amoureux et timide. Il m'a trouvé enfin une façon de penser si conforme à la sienne que dans l'enchantement où il était de ma candeur, il m'a tout dit et m'a juré une amitié sans réserve. Nous n'en sommes guère plus avancés pour notre projet. D'abord, il m'a paru que son système était qu'une demoiselle mérite beaucoup plus de ménagement qu'une femme, comme ayant plus à perdre. Il trouve surtout que rien ne peut justifier un homme de mettre une fille dans la nécessité de l'épouser ou de vivre déshonorée, quand la fille est infiniment plus riche que l'homme, comme dans le cas où il se trouve. La sécurité de la mère, la candeur de la fille, tout l'intimide et l'arrête. L'embarras ne serait point de combattre ces raisonnements, quelque vrai qu'ils soient. Avec un peu d'adresse et aidé par la passion, on les aurait bien trop détruits. D'autant plus qu'ils prêtent au ridicule et qu'on aurait pour soi l'autorité de l'usage. Mais ce qui empêche qu'il n'y ait de prise sur lui, c'est qu'il se trouve heureux comme il est. En effet, si les premiers amours paraissent en général plus honnêtes et, comme on dit, plus purs, s'ils sont au moins plus lents dans leur marche, ce n'est pas, comme on le pense, délicatesse ou timidité. C'est que le cœur, étonné par un sentiment inconnu, s'arrête pour ainsi dire à chaque pas, pour jouir du charme qu'il éprouve, et que ce charme est si puissant sur un cœur neuf qu'il occupe au point de lui faire oublier tout autre plaisir. Cela est si vrai qu'un libertin amoureux, si un libertin peut l'être, devient en ce moment même moins pressé de jouir. Et qu'enfin, entre la conduite de Danceny avec la petite Volange et la mienne avec la prude Madame de Tourvel, il n'y a que la différence du plus au moins. Il aurait fallu pour échauffer notre jeune homme plus d'obstacles qu'il n'en a rencontrés. Surtout qu'il eût eu besoin de plus de mystère, car le mystère mène à l'audace. Je ne suis pas éloignée de croire que vous nous avez nui en le servant si bien. Votre conduite eût été excellente avec un homme usagé, qui n'eût eu que des désirs. Mais vous auriez pu prévoir que pour un homme jeune, honnête et amoureux, le plus grand prix des faveurs est d'être la preuve de l'amour. Et que par conséquent, plus il serait sûr d'être aimé, moins il serait entreprenant. Que faire à présent? Je n'en sais rien. Mais je n'espère pas que la petite soit prise avant le mariage et nous en serons pour nos frais. J'en suis fâchée, mais je n'y vois pas de remède. Pendant que je disserte ici, vous faites mieux avec votre chevalier. Cela me fait songer que vous m'avez promis une infidélité en ma faveur. J'en ai votre promesse par écrit, et je ne veux pas en faire un billet de la châtre. Je conviens que l'échéance n'est pas encore arrivée, mais il serait généreux à vous de ne pas l'attendre, et de mon côté, je vous tiendrai compte des intérêts. Qu'en dites-vous, ma belle amie? Est-ce que vous n'êtes pas fatiguée de votre constance? Ce chevalier est donc bien merveilleux? Oh, laissez-moi faire. Je veux vous forcer de convenir que si vous lui aviez trouvé quelque mérite, c'est que vous m'aviez oubliée. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse comme je vous désire. Je défie tous les baisers du chevalier d'avoir autant d'ardeur. De ce 5 septembre 1700. Lettre 58. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Par où ai-je donc mérité, madame, et les reproches que vous me faites, et la colère que vous me témoignez? L'attachement le plus vif, et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés. Voilà en deux mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablée par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire. Et aujourd'hui, vous voulez m'ôter cet unique plaisir. Me le laisserai-je ravir sans essayer de le défendre? Non, sans doute. Et comment ne serait-il pas cher à mon cœur? C'est le seul qui me reste et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc, je vous en prie, que depuis 10 jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous, et que cependant vous n'avez reçu que 2 lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour, et que puis-je dire que ce que je pense, tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression, et vous pouvez m'en croire, je ne vous en ai laissé voir que ce qu'il m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus me répondre. Ainsi, l'homme qui vous préfère à tout, et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non contente de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris. Et pourquoi ces menaces et ce courroux? Qu'en avez-vous besoin? N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes? M'est-il donc possible de contrarier aucun de vos désirs? Et ne l'ai-je pas déjà prouvé? Mais abuserez-vous de cet empire que vous avez sur moi? Après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste, vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous être si nécessaire? Ne vous direz-vous jamais, il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur. Il implorait mes secours, et je l'ai regardé sans pitié. Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes mots, il faudrait savoir à quel point je vous aime, et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore, un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez, et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis. Et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autres regrets que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour. Je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs, et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. Mais je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous ? De ce 7 septembre 1700. Lettre 59, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Apprenez-moi, si vous le savez, ce que signifie ce radotage de Danceny. Qu'est-il donc arrivé ? Et qu'est-ce qu'il a perdu ? Sa belle s'est peut-être fâchée de son respect éternel ? Il faut être juste, on se fâcherait à moins. Que lui dirai-je ce soir au rendez-vous qu'il me demande et que je lui ai donné à tout hasard? Assurément, je ne perdrai pas mon temps à écouter ses doléances, si cela ne doit nous mener à rien. Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatif obligé ou en grandes ariettes. Instruisez-moi donc de ce qui est et de ce que je dois faire, ou bien je déserte pour éviter l'ennui que je prévois. Pourrais-je causer avec vous ce matin? Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot, et donnez-moi les réclames de mon rôle. Où étiez-vous donc hier? Je ne parviens plus à vous voir. En vérité, ce n'était pas la peine de me retenir à Paris au mois de septembre. Décidez-vous pourtant, car je viens de recevoir une invitation fort pressante de la comtesse de B pour aller la voir à la campagne. Et comme elle me l'amende assez plaisamment, son mari a le plus beau bois du monde, qu'il conserve soigneusement pour les plaisirs de ses amis. Or, vous savez que j'ai bien quelques droits sur ce bois-là, et j'irai le revoir si je ne vous suis pas utile. Adieu. Songez que Danceny sera chez moi sur les 4 heures. De ce 8 septembre 1700.